Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Et les grands titres de ce 29 mai, le Premier ministre Anthony Albanese se prononce sur le sort de la famille de Bilola en quête d'asile politique en Australie. Les gouvernements de Western Australia et de South Australia offrent des vaccins gratuits contre la grippe. L'Australien Jay Hindley va essayer de créer l'histoire dans le Giro d'Italia ce dimanche pour remporter le maillot rose au final. Le Premier ministre australien Anthony Albanese a déclaré que le Parlement devrait refléter l'Australie en tant que nation multiculturelle. Lors de sa première interview en face-à-face en tant que Premier ministre, il a été interrogé sur plusieurs questions, notamment sur le sort de la famille des demandeurs d'asile de Bilola, le parachutage de Christina Keneally dans le siège de Fowler et le budget. Il a déclaré qu'il y avait des leçons très claires à tirer de la défaite de Madame Keneally et que la communauté avait envoyé un message clair. Anthony Albanese déclare que l'Australie doit également modifier sa constitution, ajoutant qu'une voix autochtone au Parlement est nécessaire. Il est revenu sur le sort de la famille Murugupan sur Sky News.
And here we were, basically taking this mum and dad and their two daughters who were born here in Australia, taking them off to detention in the middle of the night, taking them to Melbourne, then they end up on Christmas Island, then they end up in Perth. We're a better country than that. These two little girls aren't threats to our security.
David Littleproud a confirmé qu'il se présentera contre Barnaby Joyce pour prendre la direction du Parti national lorsque le parti se réunira pour trancher la question demain lundi. Ancien ministre de l'Agriculture du gouvernement de la coalition Morrison, David Littleproud a publié une déclaration disant qu'il avait informé Barnaby Joyce de son intention de se porter candidat pour être leader du Parti national. Les Verts ont revendiqué la victoire pour un autre siège du Queensland à Brisbane. Stephen Bates des Verts a remporté le siège contre le député sortant de la coalition Trevor Evans, devançant Madonna Jarrett du Parti travailliste pour donner aux Verts leur quatrième siège à la Chambre des représentants. Monsieur Bates déclare qu'il a toujours été convaincu que le parti représentait ce que les électeurs demandaient.
We knew they liked our policies because they were telling us. They told us they wanted to get 100% publicly owned renewable energy. They wanted dental and mental health into Medicare. They wanted action on the housing crisis. And it turned into a victory for us this afternoon.
L'Australie occidentale et l'Australie méridionale offrent des vaccins gratuits contre la grippe. Le premier de Western Australia, Mark McGowan, a confirmé que les résidents de l'État de tous âges pourront recevoir leur dose de grippe dans les cliniques publiques ou les pharmacies et chez les médecins généralistes. Il y a déjà eu 194 cas confirmés de grippe dans l'état de WA cette année, avec seulement environ 20% des Australiens de l'Ouest recevant leur vaccin contre la grippe jusqu'à présent. Cela vient après que le Queensland a rendu les vaccins contre la grippe gratuits pour toutes les personnes âgées de 6 mois et plus. La Nouvelle-Galles du Sud et le Victoria envisagent des arrangements similaires. Un Australien a été tué dans le conflit ukrainien. La famille de Michael O'Neill a déclaré qu'il participait aux efforts d'aide humanitaire en Ukraine. Le père de 47 ans, de 3 enfants et de Hobart et ses proches ont été contactés par le département des affaires étrangères et du commerce. Sa sœur a publié un hommage sur Facebook, disant qu'il était toujours à la recherche d'une cause et a aidé à conduire les blessés et les blessés de la ligne de front. Et cette guerre en Ukraine, le président russe Vladimir Poutine se dit prêt à discuter des moyens d'expédier les grains des céréales bloqués dans les ports ukrainiens. Cela survient alors que le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz ont exhorté le président russe à s'engager à des pourparlers avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Les dirigeants ont participé à un appel téléphonique de 80 minutes au cours duquel Poutine aurait mis en garde les dirigeants contre la fourniture fourniture d'armes lourdes à l'Ukraine. Vladimir Poutine a déclaré qu'il était disposé à rechercher des moyens d'expédier des céréales bloquées dans les ports ukrainiens, mais exige que l'Occident lève d'abord ses sanctions contre la Russie. Scholz et Macron ont également exhorté Poutine à libérer 2500 soldats ukrainiens de l'aciérie d'Azovstal, détenus par les forces russes. Dans une allocution par vidéo aux étudiants de l'Institut Freeman Spogli d'études internationales de l'Université de Stanford aux États-Unis, le président ukrainien a déclaré que la Russie était en mesure de contourner les sanctions car il n'y avait pas de position mondiale unie contre elle.
Sanctions are the right weapon against Russia, the world's weapons against Russia who's taking lives. But sanctions are the weapon that doesn't take lives. It just shows that violation of international law, human rights, sovereignty can't be violated. One cannot take someone else's property. Moreover, one cannot take people's lives. That's why these tools are so needed.
Et maintenant, les dernières nouvelles sur le terrain en Ukraine avec ce reportage de Juliette Gerbrand pour RFI.
Les combats se poursuivent tant à Limanka qu'à Severodonetsk, selon les autorités ukrainiennes. Mais sur les cartes des experts militaires en ligne, Liman est désormais clairement de l'autre côté de la ligne de front. Le gouverneur de la région de Lugansk explique qu'à Severodonetsk, l'armée russe détruit tout simplement la ville. Sergueï Gaïdaï rapporte qu'elle est entrée dans les faubourgs de la ville où elle a subi de lourdes pertes. Plus au sud du Donbass, l'offensive russe se rapproche de la ville de Bakhmout, elle aussi stratégique sur le plan géographique, car sur la route des grandes villes de la province de Donetsk, Slaviansk et Kramatorsk. Une chose est sûre, la prise de Liman resserre encore l'étau autour de l'agglomération de Severodonetsk et Lysychansk. Dans cette dernière ville aussi, d'importantes destructions ont eu lieu et la chute de l'enclave, quasi encerclée par les forces russes, donnerait à Moscou le contrôle total de la province de Luhansk, une des deux provinces qui composent le Donbass. Selon le renseignement britannique, le Kremlin pourrait alors revendiquer une victoire majeure justifiant l'invasion de l'Ukraine, même si cette région de Lugansk était déjà contrôlée à 80% par les séparatistes avant la guerre.
La vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, a déclaré que cela suffit, enough is enough en matière de violence armée. Madame Harris a assisté aux funérailles des victimes d'une attaque raciste dans un supermarché de Buffalo. S'exprimant ensuite, Madame Harris a appelé le Congrès américain à agir.
What happened here in Buffalo? In Texas, in Atlanta, in Orlando, what happened at the synagogues? And so this is a moment that requires all good people, all God-loving people, to stand up and say, we will not stand for this. Enough is enough. We will come together based on what we all know we have in common, and we will not let those people who are motivated by hate separate us or make us feel fear.
Et puis les manifestations se poursuivent au Brésil où les gens descendent dans la rue pour manifester contre la mort d'un noir tué par asphyxie à l'arrière d'une voiture de police. Une vidéo publiée dans la semaine montre l'homme de 38 ans détenu par deux agents de police fédérale des autoroutes du pays dans un coffre rempli de fumée. Monica Cunha est membre de la commission des droits de l'homme du conseil municipal et elle se dit outrée.
What is important is that they didn't give him a chance to live. Why is that? People say there is no death penalty. There sure is. There is death penalty for the black population. There is none for Brazil as a whole, but there is death penalty for more than 500 years living this fake slavery abolition. For them, there is the death penalty. For us, there is.
La chef des droits de l'homme de l'ONU, Roselyne Bachelet, termine sa visite de 6 jours en Chine. Ce n'était pas, je cite, une enquête, déclare-t-elle. Précision de Stéphane Lagarde pour RFI.
Ouvrez le micro à la haute commissaire aux droits de l'homme. Forcément, elle était très attendue, cette conférence de presse, en présence des correspondants étrangers et des médias d'État chinois. On voulait en savoir plus sur cette visite éclair qui a conduit Michel Bachelet à traverser 2 fois la Chine d'est en ouest, avion Canton-Kashgar et des rencontres avec différents acteurs, dont les autorités du Xinjiang. Ce voyage n'était pas une enquête, a répété à 3 reprises la chef des droits de l'homme de l'ONU, mais l'opportunité de soulever directement des questions auprès des autorités chinoises, dont celle des disparus et victimes de détentions arbitraires. Michel Bachelet Bachelet.
Je suis au courant du nombre important de personnes qui sont à la recherche d'informations sur leurs proches. J'ai entendu de nombreuses familles avant cette visite et ça faisait partie des interrogations soumises aux autorités. Je ne peux pas entrer dans les détails car nous devons protéger les intéressés, mais nous avons soulevé de nombreux cas et des cas très importants.
La haut-commissaire n'a pas donné de nom, pas de lieu en dehors de la prison de Kashgar dans laquelle elle s'est rendue, mais elle assure que des entretiens choisis par sa délégation se sont déroulés sans supervision. Ces échanges s'ajouteront-ils au très attendu, lui aussi, rapport de l'ONU sur les droits de l'homme au Xinjiang? Non, répète encore Michel Bachelet, ce voyage n'était pas une enquête, ce qu'avait d'ailleurs demandé la partie chinoise avant d'accepter sa venue.
Une bousculade lors d'un événement religieux dans le sud du Nigeria a fait 31 morts, dont une femme enceinte et plusieurs enfants. 7 autres personnes ont été blessées. La bousculade lors de l'événement organisé hier samedi par l'église King's Assembly Pentecostal Church dans l'état de Rivers. La comédie de lutte des classes du réalisateur suédois Ruben Östlund, Triangle of Sadness, a remporté le prix de la Palme d'Or du Festival de Cannes. C'est la deuxième fois qu'il remporte le prix. Il a déclaré sur la BBC qu'il était content que le film ait trouvé un écho auprès du public.
I feel happy, of course. It's crazy. You know what I'm most happy of? It is because we were aiming to try to do a wild, entertaining movie that where we had a content that we thought was important, where the audience should discuss afterwards, but they should also have really, really fun when they watch the movie.
Et maintenant, on passe au reportage d'Elisabeth Le Quéré sur place à Cannes.
Avec sa satire du monde des super-riches, Ruben Östlund trône au sommet d'un palmarès pléthorique, à l'image d'un jury venu d'horizons très divers qui, de toute évidence, a eu du mal à se mettre d'accord, comme le laissait entendre son président, Vincent Lindon, au début de la cérémonie.
Je pensais sans doute que mon statut très officiel de président les impressionnerait et qu'il me serait donc plus facile d'imposer mes envies, mes pensées, mes convictions et mes choix. Après tout, c'était mon jury. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Non, pas du tout. J'ai eu une voix parmi 9, audible certes, mais loin d'être prépondérante. C'est ça l'inconvénient de la démocratie. Mais c'est comme ça.
L'inconvénient de la démocratie, c'est 12 films au palmarès au lieu de 9. Cette année, 2 films ex-aequo pour le prix du jury, Io du Polonais Jerzy Skolimowski et Les 8 montagnes des Belges Félix van Groningen et Charlotte van der Mersch. Les jurés n'ont pas su trancher non plus pour le grand prix ex-aequo, donc la Française Claire Denis et le Belge Lucas Donte, la première pour Des étoiles à midi, le second pour Close. Quant aux frères Luc et Jean-Pierre Dardenne, ils raflent eux aussi un prix surnuméraire pour Tori et Lokita, le prix spécial de ce 75e Festival de Cannes.
Et on passe à la météo pour ce dimanche en Australie, à Perth, il fera 18 degrés plutôt, Adélaïde 19, Melbourne 16, Hobart 12, Canberra 14, Sydney 19, Brisbane 22, Cairns 28, Darwin 32 et à Alice Springs, maximal de 27 degrés. Rappel des grands titres de ce dimanche 29 mai, le Premier ministre Anthony Albanese se prononce sur le sort de la famille de Bilola en quête d'asile politique en Australie. Les gouvernements de Western Australia et de South Australia offrent des vaccins gratuits contre la grippe. Fin du journal et merci de rester avec nous.
En français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/SBS French.